Bonjour à tous. Nous allons commencer par des déclarations du secrétaire général, puis du premier ministre, et ensuite nous écouterons quelques questions. Monsieur le secrétaire général, premier ministre Starmer, cher Keir, je suis ravie de vous revoir et ravie de vous accueillir ici au siège de l'OTAN. Merci. Le Royaume-Uni, comme vous le savez, a toujours été un allié fervent et essentiel. Vous êtes l'un des fondateurs de notre alliance. Les pilotes de l'armée de l'air aident à sécuriser nos ciels. La marine royale aide à maintenir la sécurité de nos mers et l'armée de terre britannique contribue à notre sécurité partagée. Vous êtes leader mondial en cyber, en innovation et vous faites des contributions inestimables à notre dissuasion nucléaire. Le Royaume-Uni est également un loyal ami de l'Ukraine. Vous avez fourni des milliards en aide humanitaire, en aide militaire, des formations essentielles et des garanties de sécurité importantes. Pour l'avenir, nous ne devons pas simplement maintenir, mais continuer de renforcer notre appui pour que, lorsque le moment sera venu, l'Ukraine puisse s'asseoir à la table des négociations en position de force et aspirer à un bon accord pour une paix durable. Notre monde est de plus en plus dangereux. Nous devons être mieux équipés pour faire face à toute menace dans tous les milieux, aujourd'hui et à l'avenir. Les campagnes de déstabilisation de la Russie dans les pays alliés augmentent. Elles ont ciblé l'infrastructure numérique, les diplomates britanniques et même votre service national de santé. Rien que le mois dernier, à nouveau, vous avez détecté un bâtiment espion russe dans les eaux britanniques. Et vous avez clairement fait comprendre à Moscou que de tels actes éhontés étaient inacceptables. Pour mettre un terme à ces attaques pour de bon, il nous faut redoubler d'efforts et s'assurer que notre dissuasion ne laisse aucune place au doute. On peut faire ceci en investissant encore plus dans la défense. Autrement dit, pour éviter la guerre, nous devons dépenser plus. Le Royaume-Uni comprend ceci de manière instinctive. Vous avez atteint la cible des 2% il y a longtemps et je salue vos projets d'augmenter plus encore les investissements de défense. Parce que dans un monde plus dangereux, 2%, ce ne sera pas suffisant pour notre sécurité. Nous devons investir bien plus. Nous devons également reconstituer nos stocks et rapidement. Il n'y a pas de temps à perdre. Raviver nos industries de défense pour accélérer la production de défense est essentiel. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les usines au Royaume-Uni et aux États-Unis ont produit des milliards de munitions et c'était avant la numérisation et l'automatisation. Avec toute la puissance de l'industrie britannique, imaginez seulement ce qu'on pourrait réussir à faire. Les défis auxquels nous faisons face sont complexes, mais ensemble, à l'OTAN, il n'y a rien que nous ne puissions faire. Donc merci pour votre leadership continu, pour votre appui à notre alliance transatlantique. Cher Premier ministre, cher Keir, vous avez la parole.
Merci Marc, je suis très heureux d'être là de nouveau. L'engagement du Royaume-Uni envers l'OTAN est plus fort que jamais parce que la nécessité de l'OTAN est plus évidente que jamais. Et nous venons d'avoir des échanges très fructueux sur les possibilités de faire face à la menace croissante que fait peser la Russie sur tout notre continent, y compris bien sûr la situation en Ukraine. Il y a quelques semaines de cela, je me suis rendu à Kiev. J'ai pu voir des immeubles résidentiels détruits quelques jours avant mon arrivée. J'ai rencontré des militaires aux soins intensifs et qui se remettaient de graves brûlures. Et j'ai rencontré des enfants dont les parents sont sur le front. Et voilà qui nous rappelle une fois de plus qu'il s'agit d'une guerre, non pas seulement en Ukraine, mais une guerre pour l'Ukraine. Il s'agit de ses enfants et de leur avenir avant tout. Et c'est pourquoi nous sommes solidaires avec eux. Et nous efforçons tous de mettre un terme à cette guerre. Mais il faut être formel sur ceci. La paix passera par une position de force. Et nous devons faire tout en notre pouvoir pour soutenir la défense de l'Ukraine. Cela suppose de stabiliser la ligne de front, de donner l'équipement et la formation aux militaires ukrainiens. Et c'est pourquoi cette année, le Royaume-Uni donnera encore davantage et plus que jamais de soutien militaire à l'Ukraine. Il faut que tous les alliés intensifient leurs efforts, surtout en Europe. Le président Trump a menacé la Russie de davantage de sanctions, et voilà qui a clairement secoué Poutine. Nous le savons, il est inquiet Poutine quand il voit l'état de l'économie russe. Alors mon objectif, c'est de travailler avec nos partenaires européens pour continuer à exercer ces pressions sur la Russie. Nous allons viser les recettes du pétrole et les entreprises qui approvisionnent les usines de missiles, cela pour écraser la machine de guerre de Poutine. Parce que outre notre soutien militaire, c'est cela qui va nous rapprocher la paix, in fine. Et nous devons travailler ensemble pour continuer à renforcer l'OTAN. Comme vous l'avez dit, des faits qui nous auraient scandalisés il y a quelques années de cela sont devenus pratiquement monnaie courante. Nous voyons des bâtiments russes qui espionnent au large des côtes du Royaume-Uni, des actes de sabotage à l'échelle de l'Europe, des cyberattaques, de l'ingérence dans nos élections et des attentats. La Russie cherche à déstabiliser notre continent et à cibler nos valeurs. Donc nous devons rester outrés, scandalisés, nous devons durcir la défense de l'Europe. Au Royaume-Uni, nous sommes fiers d'être parmi les principaux alliés de l'OTAN. Nous participons aux forces terrestres de l'avant, nous participons à la police du ciel et aux patrouilles maritimes. Nos dépenses de défense s'élèvent à 2,3% du PIB et nous mettons tout en œuvre pour atteindre 2,5%. Les plans et les besoins de l'OTAN et ce principe qui veut que l'OTAN passe avant tout, voilà autant d'éléments qui sont au cœur de notre revue de défense stratégique cette année. Et à l'échelle de l'Europe, nous devons assumer une plus grande part du fardeau dès maintenant parce que ce fardeau nous appartient. Voilà les sujets que je vais évoquer au Conseil de l'Union européenne ce soir. Nous souhaitons établir un partenariat ambitieux avec le Royaume-Uni sur la sécurité. Nous voulons renforcer l'OTAN, y compris en ce qui concerne la technologie militaire, les recherches et le développement. Il faut aussi améliorer la mobilité des forces dans toute l'Europe, protéger nos infrastructures essentielles et renforcer la collaboration avec nos industries pour accroître considérablement la production de la défense. Nous ne pouvons pas être de simples badauds s'agissant des questions de paix sur notre continent. Nous devons absolument mener cette action et j'en ai la ferme conviction. Merci. Quelques questions ensuite.
Au troisième rang, Sky. Merci beaucoup, Beth Rigby de Sky News. Monsieur le secrétaire général, l'OTAN s'est tenue unie contre la Russie avec tous les alliés sur la même longueur d'onde depuis 2022. Maintenant, les États-Unis et le Canada sont sur le point d'engager une guerre commerciale. Que pensez-vous de cela? Et le président Trump, Monsieur le Premier ministre, a dit qu'il y aurait probablement des frais de douane imposés au Royaume-Uni. Qu'en pensez-vous? Et qu'en est-il de forcer l'Ukraine à se mettre à la table des négociations en menaçant des guerres entre alliés? Est-ce qu'il n'est pas vrai que le président Trump est quelque chose de négatif pour la prospérité et la sécurité de l'Europe? Merci beaucoup. Alors, pour répondre à votre première réponse, je suis sûre qu'on pourra régler ces différends. Il y a toujours des différends entre alliés. Tout n'est pas toujours facile, mais je suis convaincue que cela n'empêchera pas de maintenir notre dissuasion et n'entravera pas notre détermination collective. Pour ce qui est du commerce, l'excédent commercial américain qui est en Europe depuis 2022, ils vendent plus en Europe que l'inverse. Et il y a 180 milliards de dollars d'excédent commercial depuis 2022. Donc ceci nous dit quelque chose. Ça nous montre qu'il faut s'intéresser à ces chiffres. Mais pour revenir à votre question, ça n'aura aucun incident sur notre défense collective. Merci beaucoup, Beth. Sur la question de la dissuasion, bien sûr, nous en sommes qu'au début. Je pense que ce qu'il est important, c'est de créer des relations commerciales fortes et c'est la base de mes discussions avec le président Trump. Et je sais qu'il y a des discussions prévues entre les États-Unis et l'Europe. Pour cette question de l'Ukraine, Je pense qu'il faut reconnaître le rôle des États-Unis dans le cadre des efforts communs pour l'Ukraine. C'est absolument essentiel parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une guerre contre la souveraineté de l'Ukraine. Ce n'est pas qu'une question européenne, c'est vraiment une question de sécurité à l'échelle mondiale. Il est important de le voir dans ce contexte. Et une chose qui ressort de ce conflit horrible en Ukraine, c'est une OTAN plus forte, ce qui est très important, comme vous le savez. Au Parti travailliste, nous sommes fiers du fait que nous sommes membres fondateurs de l'OTAN, que nous avons des relations avec l'OTAN. L'OTAN est aussi importante aujourd'hui qu'elle l'était par le passé, mais il est important de le préciser. Elle est dans une position plus forte. Les discussions aujourd'hui, les discussions que j'aurai ce soir sur la manière de poursuivre dans cette voie, de renforcer encore l'OTAN, sont importantes parce qu'il faut cette force dans notre défense en ces temps difficiles. Merci beaucoup.
Second row, please. BBC, deuxième rangée. Merci, Chris Meissen, BBC News. Sur un sujet analogue, quand on voit des disputes entre alliés s'afficher publiquement entre alliés de l'OTAN, ensuite il y a le Danemark et les États-Unis aussi qui ont des différences sur des territoires. Et Monsieur le Premier ministre, est-ce que votre... Vous seriez prêt à mettre de l'eau dans votre vin pour ce qui est de relancer les relations avec l'Union européenne pour garder l'avis favorable de Trump? Réponse. Quand on voit les industries de défense, les États-Unis vendent beaucoup plus en Europe que l'inverse et collectivement, nous devons accroître considérablement la production. Les fonds ne manquent pas et nous allons injecter davantage de fonds. L'année dernière, les alliés, à part les États-Unis, ont consacré 18% de plus à la défense. On voit une augmentation en l'espace de quelques années de pas loin de 20%. Donc nous dépensons beaucoup plus. Donc la base industrielle de défense s'enrichit. Il faut acheter partout. Les États-Unis doivent intensifier la Norvège, le Royaume-Uni, l'Union européenne, y compris les grands pays tels que l'Italie, l'Espagne, la Norvège, qui n'est pas membre de l'Union européenne, la France et la Turquie aussi. Tous ces pays doivent intensifier leurs efforts industriels pour accroître la production de défense. Alors, il y a beaucoup d'argent qui circule et ce que nous voyons, c'est que cet excédent commercial des États-Unis est dépensé en Europe. Alors, ces chiffres sont bien plus parlants quand on les voit ensemble. Et sur le Groenland et le différent avec le Danemark, le président Trump nous a mis en alerte face au fait que quand il s'agit du Grand Nord, il y a quand même des enjeux géopolitiques et stratégiques. Et cela ne concerne pas uniquement le Groenland, ça concerne la Finlande, la Suède, la Norvège, l'Islande, le Groenland aussi, donc le Danemark, ainsi que le Canada et les États-Unis. Et collectivement, en tant qu'alliance, nous allons toujours chercher à faire face à ces défis de manière optimale. Et pour ce qui est des relations entre le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union européenne, j'ai toujours souligné l'importance de ces deux relations. Cela n'a rien de nouveau. Cela a toujours été le cas et ce n'est pas prêt de changer au cours des décennies à venir. Donc, dans mes échanges avec le président Trump, nous avons évoqué des questions de commerce et de sécurité. Nous avons déjà des liens commerciaux très développés entre nos deux pays, mais il y a aussi nos partenariats de longue date en matière de sécurité, de défense et de renseignement aussi. Tout cela présente une énorme importance pour notre défense collective. Bon, ici à l'OTAN, nous parlons de défense et de sécurité, bien entendu, et ce soir, j'interviendrai au Conseil de l'Union européenne où il sera question de sécurité et de défense aussi. Effectivement, il sera très important de pouvoir voir avec les collègues comment intensifier nos efforts dans ce monde de plus en plus imprévisible. Mais je reviendrai sur la relance de nos relations qui va au-delà de la défense et de la sécurité pour concerner le secteur énergétique, les échanges commerciaux et l'économie. Et comme je le disais déjà, nous attachons beaucoup d'importance à ces deux volets de nos relations. Il n'y a pas de l'un n'empêche pas l'autre ou ne défavorise l'autre. Mais depuis des décennies, cela a toujours été la position très forte du Royaume-Uni. Encore une question. ITV.
question. Monsieur le secrétaire général, ce sont bien plus que des différends entre alliés. Vous avez un allié de l'OTAN qui menace de saisir le territoire d'un autre allié de l'OTAN. C'est pire que ça ne l'a jamais été. Est-ce qu'il n'est donc pas temps que l'Europe devienne réaliste et commence à planifier une défense à l'avenir qui n'inclurait peut-être pas les États-Unis? Et Monsieur le Premier ministre, si vous me le permettez, je sais que vous souhaitez maintenir cette relation dans les deux camps, mais vous essayez de reprendre les relations avec l'Europe alors que le président Trump essaie de dire qu'il veut diviser l'Europe. S'il y arrive, et si les autres dirigeants européens vous demandent dans quel camp vous vous trouverez, que leur diriez-vous? Réponse. Pour la question sur l'OTAN. Et l'hypothèse de pouvoir mener l'OTAN sans les États-Unis, pour de nombreuses raisons, ce n'est pas possible. Commentaire hors micro. Donc il faudrait une défense européenne sans l'implication des États-Unis. C'est ce que vous dites, que ce soit à l'OTAN ou dans une autre organisation sans les États-Unis. Pour de nombreuses raisons, ceci ne peut pas fonctionner. Tout d'abord, parce que, comme le Premier ministre le disait, lorsqu'on regarde l'Ukraine, ce n'est pas que l'Ukraine et la Russie. Ce serait déjà quelque chose de problématique, mais le côté européen de l'OTAN, le côté américain de l'OTAN réalise que tout cela est connecté. Il s'agit de la Russie, de la Chine, de la Corée du Nord, et donc il faut que l'Ukraine soit victorieuse, pas que pour l'Ukraine, mais également pour les répercussions géopolitiques. Et pour l'OTAN dans son ensemble, nous sommes 20 fois plus grands ensemble que l'économie russe. Ensemble, nous pouvons protéger le territoire collectif de l'OTAN, y compris les États-Unis. Et les États-Unis également sont également menacés maintenant avec les missiles de longue portée qui pourraient émaner de la Corée du Nord dans quelques temps avec ces nouvelles technologies. Donc, pour toutes ces raisons, il faut rester connecté. Moi, je suis fervent défenseur du lien transatlantique. Je pense que le mieux qu'on puisse faire, c'est de rester unis. Et je sais que c'est toujours ce principe qui prévaut aux États-Unis. En ce qui concerne les États-Unis et l'UE ou l'Europe de manière plus générale, si vous regardez nos intérêts vitaux, il est très important de travailler avec ces deux camps. Pour nous, ce n'est pas l'un ou l'autre. Sur la défense et la sécurité, nous travaillons étroitement avec nos alliés européens au quotidien, notamment sur les questions de l'Ukraine, mais pas seulement. Mais sur la défense et la sécurité également, nous travaillons avec les États-Unis. Nous avons une relation spéciale en termes de sécurité, de défense et bien sûr les capacités de renseignement que nous avons développées ensemble. C'est absolument essentiel. Et c'est dans l'intérêt du Royaume-Uni, mais également, selon moi, pour les intérêts de la sécurité et de la défense mondiale, il est essentiel qu'on continue à travailler avec les États-Unis et l'Europe sur ces questions. Pour les échanges commerciaux, il en va de même. Nous avons énormément d'échanges entre les États-Unis et le Royaume-Uni, comme nous en avons avec l'UE. Et c'est pour cela que c'est important, c'est dans l'intérêt national du Royaume-Uni de rester déterminé, de travailler ensemble avec ces deux ensembles de partenaires, notamment en ces temps volatiles où il semblerait... C'est quelque chose d'évident. Nous avons un monde bien plus volatile que précédemment et donc il faut agir sur tous les fronts avec les États-Unis, avec l'UE. Ce n'est pas le moment de se retirer. Merci beaucoup. Merci. Nous n'avons pas plus de temps. Merci beaucoup.